Et cela ne dépend pas d'eux comme personne. C'est une décision souveraine. Ces personnes, Dieu sauve, ces personnes, Dieu condamne. Eh bien, nous comprenons que ça crée une inquiétude chez plusieurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça le Dieu qui nous est révélé dans la parole? Eh bien, je lis Jean 3, verset 16. Si ma vie serait falsifiée, je lirais, car Dieu a tant aimé les élus, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le vrai texte biblique dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Eh bien, le monde, c'est qui? C'est l'humanité. C'est toute l'humanité. Ce n'est pas une partie de l'humanité que Dieu a aimée. Bien sûr, John MacArthur, par exemple, comme calviniste célèbre, il dit, oui, Dieu a un amour pour toutes ces créatures. Et il les aime comme créatures, mais pas pour le salut. Eh bien, je relis, même que nous savons par cœur, pour relire, bien relire, lentement relire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ici, il ne s'agit pas simplement de son amour pour sa création, pour ses créatures, mais c'est un amour en vue du salut. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, c'est une question fondamentale. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible qui aurait prédestiné, dans sa souveraineté, indépendamment des personnes, qu'une partie doit aller à la condamnation éternelle? Ou pas? Eh bien, nous savons dans l'islam, Allah est présenté de cette façon, qu'il soit un Dieu absolument souverain, qui fait tout ce qu'il veut et qui peut aussi changer ses desseins comme il veut. Il n'est pas lié, il n'est même pas lié au Coran. Donc, il peut dire le contraire après quelques temps. Et même un musulman qui a essayé d'être un musulman fidèle jusqu'à la fin, au dernier jugement, selon la doctrine islamique, Allah peut dire « Jahannam », le mot arabe pour « enfer ». Et il va être rejeté à la Jahannam, donc à l'enfer, indépendamment de ce qu'il a fait, de ce qu'il a choisi, parce que Allah est présenté souverain dans le sens qu'il n'est pas lié à n'importe quoi. Mais le Dieu de la Bible, c'est toujours lié à sa propre parole. Donc, il ne change jamais sa parole. Un verset qui nous explique ça. L'Épître à Tite, chapitre 1er, Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Dieu ne peut pas mentir. Allah peut mentir. Il est même doué selon le Coran. Mais nous voyons que le Dieu de la Bible est complètement différent. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire une chose et plus tard une autre chose. Il s'est lié à sa parole. Dieu est lumière, 1 Jean 1, verset 5, et Dieu est amour, 1 Jean 4. Et il ne peut jamais agir contre sa propre nature, si on peut utiliser ce mot pour désigner l'être de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Dieu est présenté dans la parole comme souverain, mais ce n'est pas une souveraineté qui est contre sa propre justice. Il ne peut pas mentir. Il est amour, il est lumière. Eh bien, comment il faut comprendre lorsque Paul décrit et adore le Père en Éphésiens 1 pour le fait qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Verset 4. Verset 5. Nous ayons prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Comment il faut comprendre ça? Eh bien, une grande différence entre la doctrine de la prédestination biblique et la doctrine de la prédestination de Jean Calvin est le suivant. N'est-ce pas? On parle en théologie des cinq colonnes du calvinisme. Et une colonne, c'est unconditional election. Donc, élection inconditionnelle. Donc, Dieu a élu sans une condition qui est mise avant son choix. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que directement, le texte biblique enseigne autrement. 1 Jean 1. Non, 1 Pierre 1. Je lis à partir du verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations élues selon la préconnaissance de Dieu, le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Eh bien, il est dit, élu selon la préconnaissance de Dieu. C'est pas élu en sainteté pour l'obéissance de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, mais il y a quelque chose qui est mis avant l'élection, élu selon la préconnaissance. Qu'est-ce que c'est la préconnaissance? En grec, c'est le mot prognosis. En français, on connaît le mot prognostic. C'est pas qui vient de prognosis. Savoir à l'avance. Eh bien, ceux qui font donc la prédiction du temps de demain, il explique, demain, il y aura de la neige. Tant de centimètres. Mais cette préconnaissance n'a pas une influence sur sur la nature et le cours de la nature. C'est complètement indépendant. Simplement, ils savent à l'avance que demain, il y aura de la neige. Eh bien, la parole dit que Dieu a élu selon la préconnaissance. Donc, la parole nous présente un Dieu qui est omniprésent et omnipotent, et un Dieu qui est omniscient. Il sait tout à l'avance. Eh bien, Dieu a su à l'avance qui, un jour où Dieu va appeler par l'Évangile et va agir dans le cœur par le Saint-Esprit et va, par sa grâce, amener quelqu'un vers la repentance qui va finalement se convertir. Dieu l'a su à l'avance. Et prognosis veut vraiment dire savoir à l'avance. C'est pas une répétition dans le sens que prognosis soit prédestiné à l'avance. C'est savoir à l'avance. Preuve, eh bien, le substantif, n'est-ce pas, c'est prognosis. Et le verbe lié, c'est prognosco. À l'avance, savoir. Prognosco. Et Pierre utilise ce verbe dans la deuxième, chapitre 3. Et dans des prophéties sur les derniers jours, comment les hommes vivront dans les derniers jours, il parle de l'apostasie, d'une perversion de la morale. Et là, il dit, 2 Pierre 3, verset 17, « Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce, etc. » Donc il dit, vous croyants, vous savez à l'avance ce qui va se passer dans les derniers jours. Et ce terme, sachant à l'avance, c'est prognosco, savoir à l'avance. Et dans ce sens-là, Dieu sait à l'avance qui va répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, quand quelqu'un est présenté à l'Évangile. Et j'aimerais lire Romains 2, verset 4, pour montrer comment Dieu agit. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien, qu'est-ce que nous avons lu? Il est question ici du fait que Dieu agit dans le cœur, que Dieu pousse vers la repentance. Et l'homme a la capacité, s'il veut, de résister à cette œuvre de Dieu. Je répète. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais selon ta dureté, et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement. Alors, Dieu tire une personne et la personne peut résister jusqu'à ce qu'elle va être condamnée. Et ce verset est important aussi pour comprendre la chose suivante. Dans la doctrine calviniste, on enseigne que Dieu tire seulement les élus. vers la repentance pour les sauver par les autres. Eh bien, c'est directement contre l'Écriture qui, là, parle de la possibilité que quelqu'un soit poussé par la grâce et la longanimité de Dieu vers la repentance, mais résiste jusqu'au bout et sera jugé au jour du jugement. Alors, ça prouve que Dieu tire aussi des personnes qui seront pas sauvées. Alors, c'est aussi un point important à retenir. Mais une chose, il faut encore ajouter dans ce contexte. Romains 3, verset 11. Paul parle sur l'humanité dans le péché, et je lis depuis le verset 10, « Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. » Eh bien, j'insiste sur ce bout de phrase. Il n'y a personne, verset 11, qui recherche Dieu. Et ce verset enseigne que nous n'avons jamais de nous-mêmes cherché Dieu. Donc, nous étions des pécheurs, et un pécheur est méchant dans son cœur, et un pécheur ne cherche jamais Dieu. Mais pourquoi nous avons un jour commencé à chercher le Seigneur? C'est parce que le Seigneur a agi dans nos cœurs, par plusieurs moyens. Et dans sa grâce, il nous a poussés et amenés jusqu'à la repentance. Donc, c'est l'œuvre de Dieu, complètement. C'est pas quelque chose, quand on s'est converti, pour se glorifier. C'est la pure grâce de Dieu. Mais c'est une grâce que Dieu offre à chacun et non pas à une partie de l'humanité. Et c'est pour ça que Paul présente Dieu en 1 Timothée 2, verset 4. Ainsi. Je lis à partir du verset 3. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur. C'est-à-dire, dans le contexte, prier pour tous les hommes. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est clairement dit que Dieu voudrait. D'ailleurs, le terme « vouloir » ici est « thélo » en grec. Ça veut dire « vouloir désirer ». Un terme qui désigne « vouloir » d'une façon souveraine, c'est en grec « boulomai ». Et le dessein de Dieu, c'est « voulait ». « Boulomai », c'est « Dieu veut » parce qu'il a pris la décision ferme. Mais là, c'est vouloir désirer que tous les hommes soient sauvés. Donc, les universalistes, ils sont des faux docteurs, les universalistes ils disent « Un jour, toute l'humanité sera sauvée. » C'est pas vrai. La parole enseigne qu'une partie de l'humanité va être condamnée éternellement. La parole le dit clairement. Et cela n'est pas en contraste avec le fait que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et nous pouvons donc conclure que Dieu tire chaque homme. Mais c'est notre responsabilité. Comment réagir? Et alors, dans la doctrine calviniste, on dit non. cela ne dépend pas de la personne, c'est Dieu qui exerce sa grâce et fait que quelqu'un se convertisse sans qu'il s'est décidé. Et ça est encore une colonne des cinq colonnes du calvinisme. Irresistible grace. La grâce à laquelle on ne peut pas résister. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons appris par Romains 2, verset 4, on peut résister à la grâce et être perdu un jour pour l'éternité. Alors, c'est la responsabilité de l'homme. Et pour ça, nous lisons un verset en Matthieu 23, où le Seigneur s'adresse à Jérusalem. Il avait, à l'époque, rejeté comme Messie. C'est ce mardi avant vendredi de la crucifixion, où c'était clair que les conducteurs du judaïsme à l'époque ont rejeté le Seigneur comme Messie. Et là, le Seigneur dit en Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que des fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Alors, là, nous apprenons, il y a un libre arbitre. Mais pas un libre arbitre dans ce sens-là, que moi je me décide, oui, dans un an, je vais me convertir. Ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Et je dois dire, j'ai même de moi pas la capacité pour chercher Dieu. Donc, il faut que le Seigneur opère dans mon cœur. Mais là où il me pousse vers la repentance, c'est mon libre arbitre qui est demandé, qui est sollicité. Et là, le Seigneur dit, « Et vous ne l'avez pas voulu. » C'est le libre arbitre. Et l'homme est responsable pour le fait qu'il va périr. Et là aussi, le Seigneur dit à Jérusalem, à ceux qui l'ont rejeté, comme une fois, j'ai essayé de vous rassembler comme une poule, rassembler les poussins. Donc, ça montre également la doctrine de dire Dieu tire seulement une partie de l'humanité est fausse. C'est une fausse idée. Car le Seigneur a essayé de rassembler ceux qui l'ont rejeté. Eh bien, nous avons lu 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, nous lisons encore 2 Pierre 3. Parce que Pierre formule la même pensée avec d'autres paroles. Ça nous aide à comprendre encore mieux. Mais n'ignorez pas cette chose. Bien-aimé, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne les promesses, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. N'est-ce pas? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, il ne veut pas qu'aucun périsse et que tous viennent à la repentance. La parole est claire. C'est ce Dieu d'amour qui aime tout le monde et qui a donné son Fils unique pour tout le monde. Mais il savait à l'avance qui va, lorsque Dieu appellera un jour qui va répondre et qui va pas répondre. Et là, dans la préconnaissance de Dieu, il a pris donc la décision et ceux-là, j'ai élu pour moi. J'ai prédestiné pour être mes filles et mes fils. Je reviens à Éphésiens 1, notre point de départ aujourd'hui. Et ça nous explique pourquoi ce sujet est un sujet d'adoration, où nous pouvons mettre de côté toute inquiétude, parce que c'est un sujet merveilleux. Lorsqu'il est dit, donc, en Éphésiens 1, verset 4, « Selon qu'il nous a élus en lui, en Christ, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. » Donc, Dieu a élu ces personnes qui vont un jour répondre à son appel de grâce par repentance. Il s'est dit, je vais enlever tous les péchés, je vais les rendre saints, irréprochables. Un jour, ils vont être devant moi de cette façon. Je les ai eus sur la base de la préconnaissance, n'est-ce pas? La préconnaissance n'est pas mentionnée en Éphésiens 1. Mais nous le savons que ce n'est pas une élection inconditionnelle par 1 Pierre 1, verset 2. Élu selon la préconnaissance de Dieu. En plus, prédestination, verset 5, nous ayons prédestiné pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Adopter, le terme grec huiotesia veut dire adoption, littéralement mettre dans la position de fils. Donc Dieu s'est dit, je ne veux pas simplement enlever les péchés et les rendre justes devant moi, mais je veux aussi qu'ils aient une relation aussi intime comme des fils et des filles avec le Père. Pourquoi j'insiste sur filles? Parce que en 2 Corinthiens 6, Paul explique et parle de ce fait que Dieu reçoit les croyants comme fils et filles. À savoir, normalement, lorsqu'il est question des fils de Dieu, les filles sont incluses. C'est pas ça, on doit expliquer aujourd'hui, parce que on n'apprend plus les langues à l'école d'une façon linguistique fondée. N'est-ce pas? On ne sait plus qu'il y a des termes dans la grammaire qui sont inclusifs. N'est-ce pas? Que le masculin souvent inclut aussi le féminin. Alors, lorsque la parole parle de frères, très souvent, pas toujours, il y a des moments dans les Écritures où frère veut dire frère masculin, mais très souvent, frère inclut sœur. Et voilà, fils veut aussi inclure les filles. Mais c'est ça, cette décision que Dieu a prise et c'est ici appelé prédestination pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un sujet de reconnaissance, d'adoration, que avant la fondation du monde, le soleil n'existait pas encore. Les galaxies de l'univers n'existaient pas encore. Donc, il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas encore le temps. Ça commence seulement avec Genèse 1, verset 1er. Au commencement, là où le temps commence, Dieu créa les cieux et la terre. C'est l'univers. Les cieux et la terre. Et avant la fondation du monde, donc déjà dans l'éternité, avant la création de l'univers, tu as pensé à nous. Et personnellement, pas comme une masse de croyants, mais il nous a vus individuellement, il nous a connus individuellement à l'avance, et sur cette préconnaissance individuelle, il a choisi, élu pour être saint et irréprochable, un pardon complet et parfait, et une relation aussi intime comme le Fils de Dieu l'avait dès l'éternité. Le Seigneur n'est pas devenu Fils de Dieu. Il était dès l'éternité le Fils en communion avec le Père, et Dieu a choisi de nous introduire dans cette relation comme des créatures. C'est pour ça qu'il est question de l'adoption. Le Seigneur Jésus n'est pas Fils de Dieu par adoption. Il est Fils de Dieu depuis l'éternité, mais nous, par adoption. C'est pas quand on est adopté, il y a eu un temps où on n'était pas encore fils ou fille. Et on est devenu fille et fils. Ça, c'est l'adoption. Mais d'ailleurs, l'adoption de Dieu est aussi parfaite. En même temps, Dieu a donné sa vie. Et voilà, Jean 1 le dit clairement. Jean 1, verset 12. Je commence par le verset 11. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient dans son nom, lesquels sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, Dieu a pu donner la vie divine, qui est d'ailleurs le Seigneur Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et à la conversion, Dieu donne son Fils comme la vie éternelle, comme un don de la vie éternelle. Et par ça, nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est une belle chose, une adoption. Prenons la parole. Pas tous pensent que c'est une belle chose. Une fois, j'ai dû faire de la relation d'aide à deux enfants adoptés. Il y avait un problème avec le fait d'être adopté. Quoi faire? Alors, j'ai essayé de montrer que c'est un sujet merveilleux dans la parole. Que Dieu a eu un plan éternel avant la fondation du monde d'adopter des créatures, et de leur donner cette position de fils et de fille. Juste pour aider que ce n'est pas une tragédie que ces deux étaient adoptés, mais c'est une chose merveilleuse qui illustre pour l'autre ce que Dieu a fait avec tous les enfants de Dieu. Donc, une adoption avec deux aspects, adoption et même donner la vie. Ça, on ne peut pas. Mais Dieu a pu. Eh bien, il y a des passages difficiles. Et voilà, pour défendre le calvinisme, on cite très souvent Romains 9. C'est pour ça que nous allons ouvrir Romains 9. Et là, Paul parle de Dieu qui a pris des décisions, des choix, d'une façon sourde. Je lis à partir du verset 6. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet. Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi pour être la semence d'Abraham. Ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac, tu seras appelé une semence. C'est-à-dire, ce n'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi, quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un d'Isaac, notre père, car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu, selon l'élection, demeura non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, on dit, vous voyez, Dieu est souverain, ça ne dépend pas de l'homme. Dieu choisit dans sa souveraineté absolue et il a choisi Isaac et non pas son demi-frère Ismaël. Il a simplement choisi Jacob et non pas son frère Ésaü. C'est la preuve que Dieu choisit comme il veut. Mais là, il faut réfléchir. L'élection d'Isaac, est-ce que ça voulait dire que Ismaël était destiné à la perdition? Non. L'élection d'Isaac, c'était l'élection qu'il soit père de la nation choisie d'Israël. Par laquelle un jour, le Messie va sortir. Donc, c'est une position d'honneur, n'est-ce pas? Mais cette position d'honneur, Dieu n'a pas donné à Ismaël. Il a aussi béni. Bien sûr. Genèse 17 dit. Mais il n'a pas eu donc, ce privilège comme Isaac. Dieu a choisi Isaac. Il n'a pas choisi Ismaël. C'est sa décision. Mais ça n'a rien à faire avec la prédestination dans le sens de la doctrine de Jean Calvin, Dieu a prédestiné une partie pour l'enfer. Encore plus, Jacob, lui aussi, a été choisi par Dieu et non pas Ésaü. Il était le plus jeune. Oui, mais Dieu n'a pas pris le premier-né, mais le deuxième, parce qu'il voulait. Comme ça. Mais avec ça, Ésaü n'a été pas rejeté pour l'éternité. Donc, c'est une élection pour avoir une position d'honneur. Et d'ailleurs, c'était la même chose déjà avec Abraham. Abraham était choisi par Dieu, Genèse 12, verset 1 à 3, pour être père du peuple élu. Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre? Parce que Dieu a voulu choisir Abraham. Et il a choisi sa descendance comme le peuple terrestre de Dieu. Mais l'élection d'Israël ne veut pas dire le rejet des autres nations. Une fois, j'étais confronté à un monsieur. Je le savais déjà à l'avance. Il haïssait les Juifs. Et finalement, j'ai compris qu'il n'a pas compris l'élection. Donc, il ne supportait pas ce terme Israël, le peuple choisi de Dieu. Mais pourquoi? Nous ne sommes rien du tout. Et Dieu, pour Dieu, compte seulement un peuple, les Juifs. Il n'a pas compris que Dieu a simplement choisi un peuple, mais pour le salut du monde entier. Parce que le sauveur du monde a dû sortir d'Israël. Donc Dieu a choisi Israël pour finalement bénir toutes les nations. Disons, Genèse 12. L'appel de Dieu à Abraham à sortir de son pays. Et Dieu ajoute au verset 2, Genèse 12, 2, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc nous voyons l'élection d'Abraham, l'élection d'Israël, n'est pas le rejet des autres nations, mais la grande chance pour toutes les autres nations. Donc c'est complètement différent de la doctrine de Calvin. Et justement, revenons à Romains 9, donc ces versets, après l'introduction, où Paul parle de son désir pour le peuple juif qu'il soit sauvé, il nous présente des exemples de l'élection de Dieu à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Mais encore, un verset est difficile. Verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, oui, ça confirme quand même. Non, ça ne confirme pas du tout. Pourquoi? Parce que ce verset, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, est une citation de Malachi 1, verset 2 à 3. Et Malachi était prophète vers 400 avant Jésus-Christ. Et Ésaü a vécu 1400 ans environ avant. Donc il a vécu, il a rejeté la grâce de Dieu pour se convertir et il est perdu. Avec la mort, c'est le dernier moment de la conversion. Après ça ne va plus. Donc il est perdu. Et Dieu dit cela seulement 1400 ans plus tard pour dire qu'il a choisi et d'aller ce chemin d'éloignement de Dieu. Le prochain paragraphe, verset 14, Romains 9. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'un signe advienne. Ça montre que la souveraineté de Dieu n'a jamais affaire à l'injustice. Mais si on croit en un Dieu qui choisit une part de l'humanité et d'aider, ne veut pas les autres, les condamne éternellement, là, la question de la justice reste ouverte. Mais là, nous apprenons, non, la souveraineté de Dieu, et ce mot veut dire que Dieu peut choisir comme il veut, n'est jamais liée à l'injustice. Donc, c'est toujours complètement en accord avec son être. Dieu est lumière, Dieu est amour. 1 Jean 1, 1 Jean 4. Je lis verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors, on pourrait penser, voilà, c'est quand même une souveraineté sans une référence à la justice. Non. Il est simplement dit que Dieu donne de la grâce à celui qu'il veut donner de la grâce. Et par toutes les Écritures, nous apprenons que Dieu donne sa grâce à ceux qui sont prêts à se repentir. Là, il veut faire miséricorde. Et là, il veut user de la compassion. C'est ça la volonté de Dieu. Verset 16. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Oui, ça nous a appris. Ça ne dépend pas de nous. nous n'avons jamais cherché Dieu par nous-mêmes. On a trouvé la science. Ça ne dépend pas de nous, le salut. C'est Dieu qui a pris l'initiative et qui nous a tirés. Verset 17. Car l'Écriture dit au Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et l'endurcit qui il veut.
Voilà. Voilà. Ça confirme le calvinisme.
Non, ça ne confirme pas le calvinisme. Pourquoi? Lorsque Paul cite du livre de l'Exode, il faut lire ce chapitre. Et alors, là, on apprend que Dieu a agi par des signes et des miracles en Égypte. D'une façon merveilleuse. Pourquoi? Dieu a fait des signes qui ont prouvé que les dieux d'Égypte ne sont pas des dieux. Tous ces signes ont une connexion avec les dieux d'Égypte et les attributs que les Égyptiens ont fait à ces dieux. Et Dieu prouve que ce n'est pas le Nil qui était vénéré comme Dieu, qui donne de la vie. Mais si Dieu dit on ne peut plus voir à l'eau du Nil, alors on ne peut plus voir. Ça dépend du Dieu d'Israël, non pas de Hapi, le Dieu du Nil. Et tous les autres signes sont des attaques, mais vraiment stupéfiantes contre les dieux de l'Égypte. Et alors, par ces signes, Dieu a agi dans le cœur du Pharaon pour comprendre, moi je ne suis pas un dieu. Et je ne peux rien faire contre ces signes et miracles. Et les dieux d'Égypte ne sont pas capables d'aider lorsque le Dieu d'Israël agit. Mais nous disons qu'il a endurci son cœur. Et il l'a fait 6 fois. Et le 7e fois, nous lisons dans la parole que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Donc il a appelé, mais il n'a pas voulu. Et le jour vient où le temps de la grâce finit. Le dernier moment, c'est la mort, mais ça peut aussi être encore pendant la vie, que le moment vient où Dieu n'appelle plus. Et alors, vous voyez, Dieu n'a pas endurci dès le début, mais seulement après qu'il a donné tant de fois la chance pour se repentir. En Job 33, 29, nous disons que Dieu appelle au moins 3 fois. D'accord. Dans des moments particuliers dans la vie, 2 ou 3 fois, c'est une forme poétique pour insister sur le dernier chiffre, 3 fois, au moins. Mais dans le cas du Pharaon, on voit, c'était 2 fois, 3 fois. Alors, si le Pharaon avait accepté donc que Dieu l'a appelé, il aurait pu être sauvé, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il l'a rejeté. En gros, si ce paragraphe ne soutient pas le calvinisme, mais au contraire. Alors, verset 18, « Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et l'endurcit qui il veut. » Mais selon sa justice, il fait miséricorde à celui qui se repentit et il endurcit celui qui rejette à plusieurs reprises la grâce. Verset 19. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais Pierre dit en 2 Pierre 3, les lettres de Paul sont souvent difficiles. Il y a plusieurs qui les tordent pour leur propre destruction. Alors, si Pierre dit que c'est difficile, on
ne doit pas être frustré lorsqu'on pense, mais c'est quand même difficile.
Oui, c'est difficile.
Mais Proverbe 25, verset 2 dit que l'honneur de Dieu est de cacher une chose. Et l'honneur des rois est, selon Apocalypse 1, verset 5, nous sommes au royaume des rois. L'honneur des rois est de découvrir une chose. Alors, il faut faire des études bibliques comme nous le faisons. Maintenant, verset 19. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté? Mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Alors là, Paul parle de Dieu, le Créateur, comme un potier. Et c'est vrai, le potier, dans son travail, il est souverain. Il peut faire avec sa masse ce qu'il veut. Et il peut former donc un ustensile vraiment à l'honneur. Donc un ustensile qu'on utilise peut-être seulement pour des moments vraiment choisis avec des VIP qu'on invite. Very important persons. Et ce sont des vases qu'on met sur, ou des vaisselles qu'on met sur la table, vraiment d'honneur. Mais comme potier, on peut aussi former un ustensile qu'on utilise comme toilette. C'est pas un ustensile à l'honneur, mais très utile, si on a besoin. Et voilà, ici, il est question de vases à honneur et des vases à déshonneur. Et d'ailleurs, en 1 Corinthiens 12, Paul parle sur le corps de Christ. Les vrais croyants sont des membres du corps de Christ. Et là, il parle des membres qui sont bien honorés. Et il parle aussi des membres qui ne sont pas des membres d'honneur, mais très importants. Parce que chaque membre de notre corps est absolument indispensable, je dirais. Mais ils n'ont pas tous les mêmes places d'honneur. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, quand on est invité, de mettre les pieds sur la table. Oui, les mains, ça va. Mais il y a une différence. Et je l'ai rencontré une fois, j'étais dans une assemblée arabe, et comme des gens de l'Occident, j'ai mis les pieds comme les frères, tu vois. Là, un frère, autrefois druze, m'a envoyé un frère qui m'a dit, il ne faut pas faire comme ça. On n'a pas le droit de montrer à Dieu la plante du pied. Oui, pas tout à fait comme ça. Hein? Mais dans le monde arabe, l'a ressenti encore plus, mais on doit faire attention à ce qu'on fait avec les pieds. Eh bien, mais les pieds sont importants. Donc, il y a une différence entre les vases à honneur et à déshonneur. Et là, il faut faire une distinction. Après, Paul dit la chose suivante. 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout préparé pour la destruction. Et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde, qu'il a préparé d'avance pour la gloire. Maintenant, nous lisons des vases de colère préparés pour la destruction. Et nous lisons des vases de miséricorde que Dieu a préparé d'avance pour la gloire. Mais ça, ce n'est pas la même chose comme des vases à l'honneur et à déshonneur. N'est-ce pas? Je répète la pensée. Jacob était un vase à honneur et Ésaü à déshonneur. Parce qu'il n'a pas eu cette position d'honneur comme son frère. Mais là, c'est autre chose. Des vases de colère préparés pour la perdition. Et là, il faut voir combien c'est important de bien lire la Bible. Exactement lire la Bible. Soigneusement lire la Bible. À supporter avec une grande patience des vases de colère, tout préparé pour la destruction. Qui les a préparés? Qu'est-ce que le texte dit? Eh bien, je donne la réponse. Le texte ne le dit pas. Le texte dit simplement « préparer », mais ne dit pas qui. Dans l'autre cas, lorsqu'il s'agit des vases de miséricorde, il est dit que c'est Dieu qu'il a préparé d'avance pour la gloire. Dans ma Bible, « il », j'ai marqué particulièrement. Parce que là, le texte dit « c'est Dieu qui a fait ». Lorsque nous devons répondre « pourquoi tu t'es converti ?» Oui, c'est parce que Dieu a agi et m'a tiré et amené à la repentance. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous a préparés. Mais qui a préparé pour la perdition les vases de colère? Eh bien, cela nous avons lu depuis longtemps. Romains 9, verset 4. Ceux qui résistent à l'œuvre de Dieu qui veut dans sa patience nous amener à la repentance se préparent pour la perdition. Donc, on doit conclure. Romains 9 ne souligne pas ne confirme pas la doctrine de la prédication de Jean Calvin, mais souligne ce que nous avons vu, que le texte biblique nous dit directement. Et ainsi, ça devient logique. Il est intéressant, lorsqu'on parle avec des calvinistes, ils disent souvent, oui, bien sûr, il y a quand même une responsabilité de l'homme. Ah oui, quand même. Mais ah, vous avez dit, c'est une grace, irresistible grace, une grâce irrésistible. On doit se convertir. Parce que Dieu a prédestiné de sauver, alors la grâce vient sur moi. Il y a même des calvinistes très connus aujourd'hui, pas tous, mais il y a des calvinistes très connus aujourd'hui qui enseignent que Dieu produit d'abord la nouvelle naissance et ensuite on se convertit. Parce que l'homme, ils disent, l'homme est méchant, donc il ne peut pas répondre à Dieu. Donc il faut d'abord la nouvelle naissance et par ça, il est capable à se convertir. Mais c'est contre le texte direct de la Bible qui montre qu'il faut d'abord se convertir et Dieu répond par la nouvelle naissance. Alors, il y a la responsabilité de l'homme. Alors, les calvinistes disent, oui, il y a quand même le côté de la responsabilité de l'homme. Il n'y a pas de libre arbitre, mais il y a quand même la responsabilité de l'homme. Mais comment ça marche? La responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu qui aurait choisi ceux qui vont être condamnés pour l'éternité, ça ne dépend pas d'eux. Comment ça va ensemble? Alors, ils disent, c'est un mystère. C'est quelque chose qui surpasse notre intelligence. Oui, pourquoi? Parce que c'est plus logique. Alors, on dit, au moment où c'est plus logique, on dit, c'est un mystère qui surpasse notre intelligence. Eh bien, lorsqu'on suit la parole qui dit que Dieu a choisi selon sa préconnaissance, on ne doit pas se référer à un mystère qui surpasse l'intelligence, parce que c'est logique. Dieu a aimé le monde entier. Et il tire chacun vers soi, mais il a su à l'avance qui va accepter finalement l'œuvre de Dieu dans le cœur. Et là, il a choisi. Ceux vont être mes enfants. Donc, il y a la souveraineté de Dieu et il a la responsabilité et le libre arbitre de l'homme. Et on ne va pas dire, c'est pas logique. C'est logique. Et alors là, il faut encore expliquer, maintenant on parle encore de la... De l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. Alors on peut lire dans les quatre premiers siècles de l'histoire de l'Église, jusqu'à 400, les grands docteurs enseignants de la parole ont en général tous enseigné que Dieu a choisi et prédestiné sur la base de sa préconnaissance. Donc, dans les écrits des, comme on dit, pères d'Église, au deuxième siècle, on les appelle les apologètes. Les apologètes et les pères d'Église, c'était leur enseignement en général. On a dit, Dieu a, par sa préconnaissance, su qui va se convertir, et sur cette base, il a choisi et prédestiné.
Par contre, il paraît qu'il n'y a plus le son pour ceux qui écoutent, mais on n'a rien changé.
Alors, je répète, les enseignants de la parole, depuis le 1er, 2e, 3e, 4e siècle, ont enseigné en général que Dieu, sur la base de sa préconnaissance, a choisi et a prédestiné. Il y a 400, Augustin. Il a aussi enseigné de cette façon. Mais dans sa deuxième partie de sa vie, ça on réalise si on lit toute son œuvre dans un ordre chronologique. Il a changé. Et il a commencé à enseigner, non c'était autrement, Dieu a, d'une façon souveraine, choisi une partie pour la condamnation et une partie pour la salut. Et il est très important d'insister sur le fait que Jean Calvin a clairement confessé ma théologie. On peut mettre ensemble par les œuvres d'Augustin. Donc, lui, il s'est basé largement dans son enseignement sur Augustin. Et toute cette doctrine de la prédestination, il l'a emprunté vers Augustin. C'est pour ça, en allemand, il y a un livre qui s'appelle « Est-ce que Augustin était le premier calviniste ?» C'est pas très logique, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une logique derrière. Oui, alors, il a vraiment emprunté chez Augustin. Et maintenant, un choc. Et ce choc a été provoqué par un monsieur Ken Wilson. C'est un chirurgien, docteur en médecine. Et il a fait encore un docteur dans le domaine de l'histoire de l'Église. Et il a lu l'œuvre d'Augustin dans son ordre chronologique. Et il a fait son doctorat donc, sur le sujet prouver qu'Augustin a changé sa doctrine dans la deuxième partie de sa vie et il a emprunté cette idée de la secte où il était membre avant sa conversion pendant plusieurs années. Il était membre des manichéens, on dit comme ça, manichéens, c'était une secte gnostique, n'est-ce pas, vraiment une terrible secte. Les gnostiques, c'était ceux qui ont nié que Jésus-Christ est venu dans la chair, 1 Jean 4. Et il était dans cette secte, et plus tard, il s'est converti. Sa mère Monique a prié pour lui pendant des années. Il a vécu d'une façon immorale. Finalement, il a lu l'épître aux Romains. Il a lu l'épître sur ses genoux, tout en étant assis dans un jardin, et s'est demandé est-ce que je vais lire l'épître de Romains ou pas. Il a entendu un enfant juste à côté qui jouait et qui disait tout le temps, en latin bien sûr, à l'époque, tolle lege, tolle lege, tolle lege. Prends et lis, prends et lis, prends et lis. Alors je prends. Et sur Romains 13, où il est question de la vie immorale, il s'est vu comme dans un miroir et s'est converti. Mais, à l'époque, on avait la règle, quelqu'un qui était une fois, autrefois, avant la conversion, membre chez les manichéens, il ne doit jamais devenir un jour évêque. Bien sûr, à l'époque, ce qu'on entendait par évêque, c'était plus biblique. Mais, dans le cas d'Augustin, on a fait une exception. Et il était autrefois chez les manichéens, et il est devenu évêque. Et ça voulait dire un homme avec une influence énorme sur l'Église du temps de 400 après Jésus-Christ. Et ça, c'était une catastrophe. Parce qu'il a emprunté cette idée, le Dieu gnostique. Il a choisi des personnes pour être sauvées et d'autres. Dès le début, il les a rejetées. C'est une idée sectaire qui existait. Et lui l'a introduit dans la chrétienté et sur sa base, parce que l'Église catholique a bien sûr considéré Augustin comme saint Augustin, mais ils n'ont pas accepté son enseignement sur la prédestination. Et plus tard, dans le temps de la Réforme, Calvin s'est référé à Augustin et il a apporté cette doctrine dans une partie dans des églises évangéliques. Mais tout cela, il faut savoir, il faut connaître, n'est-ce pas? Ça aide à mettre les choses en place. Et d'ailleurs, lorsqu'il a enseigné de cette façon à Genève, à Zurich, là, la Réformation a aussi un grand impact, n'est-ce pas? Mais là, on a dit, on ne veut pas un schisme avec Genève. Mais on fait une ceinture de sécurité autour de Genève. Cette doctrine, on ne veut pas à Zurich. Et c'est pour ça que l'Église protestante réformée en Suisse n'a pas fait un schisme là, mais ils ont clairement dit à Zurich, on ne veut pas cette doctrine. Et on doit dire, sur la base de la parole, ils ont eu raison. Et c'est pour ça, alors, conclusion de cette conférence, j'ai dit au début ce problème qui nous sollicite aujourd'hui, de plus en plus cette doctrine prend un impact sur bien des églises et assemblées évangéliques, et sur la base de la parole, on doit dire, on ne peut pas. Chez nous, on fait une ceinture de sécurité autour de ceux qui enseignent comme ça, mais on ne veut pas que ça vienne à Zurich ou à Wimettre ou ces autres localités. Et ainsi, on peut vraiment avec joie enseigner donc un évangile qui est un évangile pour chacun. Et n'est-ce pas? Spurgeon, l'évangéliste célèbre en Angleterre au XIXe siècle, il était dans son cœur calviniste. Mais dans ses prédications, on ne remarque presque rien. C'est très rare qu'on réalise ça. Pourquoi? Il a réalisé qu'en fait, en pratique, ça ne marche pas. Donc, il a agi comme s'il n'était pas calviniste. Et dans son cœur, il était calviniste. Et c'est très logique. C'était un évangéliste puissant qui a apporté l'évangile à chacun. Et cela, nous devons faire. Et lorsque nous avons cette doctrine dans notre cœur, si le calvinisme est semé dans nos cœurs, alors facilement, ça suscite des pensées lorsque quelqu'un nous résiste en discussion sur l'évangile. Oui, mais... Il semble bien qu'il n'est pas choisi. Donc, alors, on ne se donne plus aussi de la peine pour gagner quelqu'un. Parce que très vite, on dit, oui, mais peut-être, de toute façon, il n'est pas choisi, donc il ne peut pas. Mais il nous faut cette attitude d'amour pour chacun. Et aussi pour ceux qui résistent. Et il faut continuer à prier. Et nous avons bien des témoignages. Des personnes disent, mais j'ai prié 30 ans pour ces personnes, et finalement, elle s'est convertie. Ou même plus. Mais ce zèle, cette conviction pour investir pour une personne que le Seigneur nous met particulièrement sur notre cœur, facilement, c'est affaibli par cette doctrine. Donc, ça a une influence sur nous, et ça a de toute façon aussi une influence sur nous. Comment nous considérons Dieu. Et lorsqu'on peut vraiment considérer Dieu, selon Jean 3,16, un Dieu qui a tant aimé le monde, ça nous marque et ça nous fortifie, ça nous encourage à continuer et à annoncer la bonne nouvelle avec joie et conviction à tous les hommes que Dieu nous présente. Thank you.